Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum du studio Kalangou, votre émission quotidienne qui parle de vos préoccupations. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct sur 41 radios partenaires à travers le Niger. L'amour, comment les jeunes font la cour au Niger et à qui se confient-ils? C'est le thème d'aujourd'hui. La jeunesse est pleinement impliquée dans des relations amoureuses qui sont généralement fondées sur l'existence d'un sentiment amoureux partagé, sans pour autant connaître le vrai sens de l'amour. Comment parler de l'amour dans la société nigérienne? Quelles sont les méthodes ou changements des jeunes dans les relations amoureuses d'aujourd'hui? Comment envisagent-ils l'avenir pour la vie commune? Comment aborder ou faire la cour avec succès? Que dit la loi nigérienne sur les relations amoureuses entre jeunes de moins de 18 ans? À qui les jeunes amoureux se confient-ils pour régler des soucis d'amour? Et quels conseils des adultes au profit des adolescents amoureux? Pour tenter de trouver des réponses, nous sommes dans ce studio avec M. Nani Soli Aboubakar. Il est juge des mineurs du premier cabinet des mineurs au tribunal de grande instance de Niamey. Bonsoir M. Nani.
Bonsoir.
M. Soule Aye, sociologue, il est également dans ce studio. Merci M. Aye, bonsoir à vous.
Bonsoir madame.
À la présentation, Nefissa Adam Sirfo. Merci, chers invités, d'être venus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous proposons d'écouter quelques jeunes qui ont bien voulu nous parler de leur relation amoureuse. On les écoute.
Pour moi, l'amour, c'est de toute façon une affection de deux cœurs, quoi. Bon, entre un homme et une fille.
Toi, présentement, est-ce que tu as un copain?
Oui, j'ai un copain.
Et depuis quel âge tu es tombée amoureuse?
Bon, je peux te dire à peu près 16 ans, 17 ans comme ça.
Comment ça s'est passé la première fois? C'est toi qui es tombée amoureuse de lui ou bien c'est lui qui t'a abordé?
Ah, c'est lui qui a commencé à parler par message. Il est majeur à peu près vers les 25 comme ça.
Toi, comment tu as pu accepter ces avances, si je peux le dire?
Bon, j'ai accepté parce que, de toute façon, il sait le faire quoi, il sait parler. En plus, il sait comment faire pour gagner le cœur d'une fille, c'est pour cela.
Donc, dès qu'il t'a abordé, tu es tombée amoureuse de lui?
Bon, pas si facilement quand même, mais c'est petit à petit, j'avais pris du temps pour pouvoir le comprendre c'est qui, comment il est, ses habitudes, comme ça.
Est-ce que tes parents savent que tu entretiens une relation amoureuse avec un jeune?
Ils ne savent pas en tout cas.
C'est en cachette que tu le fais?
Oui, bien
et
sûr.
Ils le savent donc
En tout cas, ça serait un problème, franchement. Et ils peuvent voir que le fait d'être amoureuse avec un homme, ça va t'empêcher d'étudier, mais en réalité, c'est pas ça. Tu sais, l'étude là, dès que tu veux, tu peux le faire. Donc, une relation amoureuse ne peut pas empêcher une fille ou un garçon à étudier.
Cette relation, comment ça se passe présentement avec ton copain?
Bon, comme ça, on se voit pas toujours. Même si on se voit, c'est juste pour se voir et se saluer. Comme ça, on se voit pas, il vient pas chez moi. Juste le téléphone.
Et en cas de problème, à qui tu te confies? Qui te donne des conseils si à la maison on t'empêche de causer?
Parfois, je laisse ça entre lui et moi. Mais parfois aussi, j'ai une meilleure amie, donc je lui parle de ça. C'est elle qui me donne des conseils à chaque fois.
Sur la manière dont il t'a abordé, tu dis qu'il t'a abordé par téléphone, c'est ça?
Oui, c'est par téléphone. Bon, il avait passé par mes amis, donc c'est à travers mes amis qu'il a pu avoir mon numéro.
Cette manière de t'aborder, penses-tu que c'est la meilleure manière d'aborder une fille quand tu as des sentiments pour elle?
Non, en tout cas, ce n'est pas la meilleure manière parce que même l'islam, ce n'est pas ce que notre religion nous a dit de faire. Quand tu veux une fille, normalement, tu devrais aller voir ses parents d'abord avant même de venir lui parler. C'est avec l'accord de ses parents que tu peux venir lui parler. Voilà.
Et donc, toi, jusqu'à quel âge penses-tu que tes parents peuvent accepter de te voir avec un jeune?
Bon, je ne sais pas, peut-être après le bac, je ne sais pas.
Ouais, j'ai une copine, elle a 18 ans.
Et comment tu as rencontré cette jeune fille? Qu'est-ce qui t'a poussé vers elle?
Je peux dire que je vois mes amis partent causer dans la nuit et autres. C'est un peu cool, quoi. Moi aussi, il me faut une nana dans ma vie pour partager les problèmes, quoi.
Où est-ce que tu l'as rencontrée, cette jeune fille-là?
Bon, en un bâtiment. On causait et après, j'avais pris son numéro. Et jusque-là, ça continue aussi.
Elle t'a accepté dès la première fois ou bien vous avez mis du temps à vous connaître?
Non, non, elle m'avait dit de la laisser réfléchir 3 jours avant qu'elle va me répondre. Et comme je n'ai pas le choix, je devrais faire ce qu'elle veut.
Et donc, cette fille-là, quand tu penses à elle, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens?
Parfois, même si elle n'est pas à mes côtés, je sens qu'elle est actuellement avec moi. Vous comprenez quoi?
Vous aimez mutuellement.
Oui.
Et comment vous menez votre relation amoureuse?
Jusque-là, ça marche un peu.
Où est-ce que vous vous rencontrez pour causer?
Bon, moi, chez elle. On va fixer un RDV pour causer chez elle.
Alors, nous revenons dans ce studio. Je vous donne la parole en premier, M. Alou Aye, qui est sociologue. Quelle réaction après l'écoute des avis et expériences de ces jeunes sur l'amour?
Ok, bonsoir. Et ma réaction, en tout cas, serait peut-être de relever 2 facteurs.
Mm-hmm.
Le premier facteur que j'ai pu constater dans la réaction ou dans l'entretien avec ces jeunes-là, c'est que le plus souvent, c'est eux-mêmes qui décident d'aborder ou de commencer cet entretien-là ou ces liens avec une fille ou avec un homme, un garçon, sans pour autant passer par le cadre familial ou par la cellule familiale, le cadre traditionnel qu'on connaissait. Donc, c'est des expériences le plus souvent que les jeunes commencent à tenter. Et l'autre aspect, c'est l'influence de leur cadre.
Voilà, des camarades.
Des camarades qui peuvent amener la plupart de ces jeunes à s'ouvrir à d'autres filles ou à la fille d'accepter les avances d'un homme. Donc, c'est ces 2 facteurs combinés nous amène véritablement à peut-être à observer une certaine distinction entre la vie actuelle de ce jeune dans le cadre de ses sentiments qui est tout à fait naturel, qui existe entre l'homme et la femme, et la conception que nous avons au niveau social de ces sentiments-là. Et surtout, comment est-ce que, à travers un processus bien balisé, la société... Et notre société, en tout cas, à un moment donné, accepter ou autoriser que ce sentiment-là puisse être exprimé et que l'on puisse le vivre. Mais aujourd'hui, nous constatons, en tout cas à travers les témoignages de ces jeunes-là, que c'est toute une autre réalité.
Mm-hmm.
C'est à la limite de la rue, c'est à la limite grâce aux réseaux sociaux, avec l'influence des camarades, comme nous l'avons dit, avec l'influence donc des groupes de pères, que ces jeunes-là aborde cet aspect assez sensible de leur vie.
Donc, si on peut le comprendre comparativement à la précédente décennie ou encore plus loin, il y a beaucoup de changements dans la manière d'entretenir une relation amoureuse. Ces jeunes, ça a beaucoup changé.
Oui, évidemment. Ça a beaucoup changé du moment où la société elle-même, la société, si on doit s'en tenir à la société nigérienne, elle a évolué. Donc, il y a beaucoup de paramètres nouveaux qui sont venus et qui permettent véritablement ou qui facilitent la communication ou la vie de ce sentiment d'amour, sans pour autant peut-être être dans le même cadre que nous connaissons, un peu conventionnel.
Oui, parlez-nous un peu de quelques exemples, quoi, avant et maintenant. Qu'est-ce qui a vraiment changé?
D'accord. Dans le temps, en vérité, si on doit exprimer un sentiment, d'abord c'est très difficile de l'exprimer, de l'extérioriser, en tout cas même si le jeune, à l'âge adolescent, il pouvait ou il peut légitimement exprimer ce sentiment, eh bien il y a un cadre, un minimum. Le cadre minimum, c'est quoi? Le plus souvent, il y a les démarches au niveau de la cellule familiale. Parce que dans le temps, c'est d'abord les parents. Parce que tout simplement, on ne conçoit pas une vie d'amour en dehors d'un objectif bien fixé,
voilà,
celui de se marier. Aujourd'hui, la vision, elle est toute autre. On décide vraiment de tomber amoureux ou de vivre cette vie d'amour juste par plaisir, pour satisfaire sa libido, pour satisfaire un certain nombre de désidérata de jeunes du monde d'aujourd'hui, qui est tout le contraire de la première conception dont l'objectif ou la finalité, c'est de fonder un foyer. Et en ce sens, C'était balisé, comme je le disais, c'est les familles qui décident, voici le moment opportun, où le jeune garçon qui est en train de courir ma fille, ou ici de telle famille que je connais très bien, va décider de venir dans mon foyer afin de courtiser ma fille.
Voilà.
Or, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, même si par ailleurs vous arrivez à cantonner ou à retenir votre fille à la maison, en étant chez elle, elle est en contact avec le monde extérieur. C'est cela la nouvelle donne.
D'accord.
Donc, qui fait en sorte que le premier cadre est quasiment bouleversé, il est à la limite obsolète, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que tout simplement, notre premier dispositif d'éducation ou de socialisation de l'individu est complètement dépassé aujourd'hui.
Beaucoup de changements, monsieur le juge, monsieur Nani. Beaucoup de changements sur la manière des jeunes d'entretenir leurs relations avant et maintenant. Cela a beaucoup changé, comme l'a souligné le sociologue Alou Aye. Comment vous observez-vous cette situation actuelle?
En fait, il l'a si bien dit, en fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet état de fait. Il a parlé tout à l'heure des NTIC,
voilà.
Donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux, dont le plus célèbre est Facebook, et donc l'Internet et WhatsApp encore. Maintenant, l'un des facteurs, en fait, à mon avis, qui est le plus déterminant dans la survenance de cette situation, les séries télé-novelas qui passent même sur les chaînes nationales. Donc, il y a un certain nombre de choses. Vous allez voir dans une famille, un chef de famille avec ses enfants, son épouse, et ils suivent, en tout cas, presque chaque jour ces émissions-là. Il y a un certain nombre de gestes, de déplacés qui se font, en tout cas en présence de ces enfants-là. Et ces séries-là sont de nature à avoir une influence négative sur les jeunes, ce qui du coup peut les amener à vouloir tenter donc dans la réalité et ce qu'ils sont en train d'observer à travers ces séries-là.
Que dit la loi nigérienne sur les relations amoureuses entre jeunes de moins de 18 ans, surtout quand cela engendre des discordes? Par exemple, vous pouvez voir en cas de grossesse mal acceptée, ou bien au cas où ce couple n'a aucun moyen de suivre la grossesse ou d'élever le nouveau-né. Que dit la loi sur cette situation?
D'entrée de jeu, il faut dire que les législateurs nigériens, donc à travers notamment l'article 258 du Code pénal, a prévu et puni ce qu'on appelle dans notre jargon les détournements des mineurs, notamment les détournements des mineurs sans fraude ni violence, puisque c'est ça qui concerne et le thème de cette émission-là. Parce qu'en fait, les relations amoureuses avec les mineurs doivent être, en tout cas, conduites par ceux qui le font, en tout cas, avec beaucoup de précautions. Parce que par mineur, là, il faut entendre, en tout cas, l'enfant de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas 18 ans. Avant 18 ans révolus, la personne est toujours considérée comme étant mineur. Et donc, si un adulte entretient des relations avec un mineur, en tout cas, de moins de 18 ans, il peut être amené à être, en tout cas, poursuivi pour détournement des mineurs. Puisque l'article, voilà ce que l'article dit. Donc, c'est lui qui sans fraude ni violence, aura à lever ou détourner, ou tenter de lever ou de détourner un mineur de moins de 18 ans, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans, ou d'une amende de 10 000 à 100 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Maintenant, lorsque vous, dans la perception, donc de la plupart des gens qui ne sont pas des juristes.
Des juristes, oui.
Et le détournement des mineurs, pour eux, implique nécessairement des relations sexuelles avec les mineurs. Le détournement des mineurs, lorsqu'il y a des relations entre un adulte et un mineur qui implique des relations sexuelles, ça peut être poursuivi et devant les juridictions répressives sur la base de cet article que je viens de vous citer pour détournement des mineurs. Mais le détournement des mineurs n'implique pas nécessairement et forcément des relations sexuelles. Parce que le détournement, lorsqu'on parle, en fait, c'est le fait d'utiliser des manœuvres, des tromperies, donc pour séduire une fille, en tout cas qui a moins de 18 ans, et peut être qualifié de détournement des mineurs, même s'il n'y a pas de relations sexuelles. S'il y a des relations sexuelles, on peut également poursuivre pour détournement des mineurs.
D'accord.
Mais le détournement des mineurs ne se réduit pas forcément et exclusivement aux relations sexuelles entre adultes et mineurs.
Et est-ce qu'au niveau de vos juridictions compétentes, vous avez eu déjà à faire face à des cas de détournement de mineurs?
Oui, il y a plusieurs mois. En tout cas, ça fait pratiquement 10 ans que je suis dans cette profession. Et Dieu seul sait qu'on en a rencontré plusieurs cas. Donc, le plus souvent, c'est l'adulte en question, c'est lui qui approche, en tout cas, la fille. Il arrive, en tout cas, compte tenu de la... Parce que l'enfant, quand même, qui est âgé de moins de 18 ans, jusqu'à un certain âge, on considère quand même qu'il est le mineur, mm-hmm. Il est vulnérable. Donc, l'adulte, il arrive, qu'il ait un certain ascendant sur le mineur et qu'il arrive à le convaincre à travers un certain nombre de tromperies, à travers des fausses promesses, tout ça là, mm-hmm. Donc pour essayer de séduire la fille et l'amener souvent jusqu'à l'amener dans son lit. Et maintenant, donc, là, quand la grossesse intervient, donc, et de la plupart des cas, c'est des relations qui se font comme, et bien de le confirmer, le témoignage de ces jeunes enfants-là, à l'insu des parents, notamment en milieu scolaire, il l'a dit tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin d'aller au domicile parental de la fille en question pour entretenir des relations avec elle.
Oui, mais quel est même l'âge idéal pour toute relation amoureuse, pour entamer toute relation amoureuse?
Dans notre ordonnancement juridique, la loi, en tout cas, il n'y a pas une disposition légale qui détermine ce qu'on appelle la majorité sexuelle, entre guillemets, la majorité sexuelle en France, et c'est 15 ans. Mais dans notre, en tout cas, droit positif, il n'y a pas une disposition qui détermine seulement. Si on essaie d'interpréter les dispositions du code pénal qui répriment donc les infractions et les infractions aux mœurs, donc telles que le détournement des mineurs, les viols et consorts, on peut considérer que la majorité et sexuel, c'est 18 ans. Si vous regardez un peu la définition qui est donnée par l'article 258 et même le précédent, l'article 255, on parle des mineurs de moins de 18 ans. Donc, tant qu'on n'a pas 18 ans révolus, on considère qu'on n'a pas encore atteint l'âge de la majorité sexuelle.
Monsieur Alouaïe, en tant que sociologue, selon vous, à partir de quel âge un jeune ou bien une jeune fille doit vraiment entamer une relation amoureuse?
Si on doit faire une analyse, en tout cas de notre dispositif de socialisation de l'individu ou d'éducation de l'individu, nous pouvons constater que, comme je l'avais dit au début, la société avait balisé un certain nombre de choses. À partir, par exemple, de 2 ans, parce que le plus souvent l'éducation de l'enfant commence à partir de 2 ans. Mm-hmm. C'est vrai, dès la naissance, il y a un certain nombre de principes, un certain nombre de choses qu'on essaie d'inculquer à l'enfant. Mais à partir de 2 ans, on suppose que voici un certain nombre de rudiments que l'enfant doit avoir. Mm-hmm. De 2 ans à 5 ans, il doit se contenter de ça. De 5 ans à 7 ans ou à 12 ans, voici ce dont il doit en bénéficier. Et maintenant, de 12 ans à 18 ans ou à 15 ans, voici ce dont il doit bénéficier. Donc, c'est ce dispositif-là que notre système d'éducation a prévu. Dans ce dispositif, en général, lorsque l'enfant atteint, voulait la maturité s'entend ici tout simplement le développement de son organisme. Lorsque on constate des changements au niveau morphologique de l'enfant, eh bien, on suppose, dans notre conception culturelle et sociale, on pense que cet enfant-là est en mesure d'aborder ou d'être dans le cadre du mariage. Ouais. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, chez nous, c'est une question taboue, d'une manière générale, dans le milieu social. Là, les relations amoureuses ne peuvent intervenir ou n'ont le droit de citer que lorsque la finalité, c'est de fonder un foyer. Mmh. Or, pour un jeune qui n'a pas encore les dispositions lui permettant de fonder un foyer, mm-hmm. il est d'office exclu dans ce système.
Et généralement, c'est le cas maintenant de nos jours. Ces jeunes, ils n'ont aucune finalité.
Absolument. Leur finalité, le plus souvent, et si vous prenez, rares sont les relations amoureuses entretenues par les jeunes collégiens ou lycéens qui aboutissent à un mariage. Mm-hmm. Extrêmement rares. Parce que tout simplement, c'est l'influence, comme on l'avait dit, du milieu, mais également, le juge l'avait relevé, des téléfilms. Les téléfilms là que vous constatez, derrière chaque série, derrière chaque feuilleton, il y a des idées qui sont en filigrane envoyées chez nous. Parce que c'est quoi? Il n'y a pas meilleur exemple, comme on le dit, que lorsque vous constatez preuve à l'appui. Parce que c'est quoi? On crée un cadre social bien établi, où vous allez voir des acteurs, des jeunes adolescents comme vous en train de pratiquer. Mais là, vous êtes mieux tenté à vouloir faire la même chose. Mm-hmm. Et surtout lorsque vous vous retrouvez en famille avec le maman ou le papa en train de suivre ces télé-novelas. Mm-hmm. Par conséquent, c'est comme si le papa est d'accord ou la maman est d'accord. En ce moment-là, ce qui constituait un tabou au niveau de la communauté ou de la société, eh bien, il ne l'est plus parce que la maman est prête, elle attend 18 heures pour venir regarder. Donc, elle cautionne quelque part que sa fille puisse faire la même chose ou que son garçon puisse faire la même chose du moment où elle-même, elle est fière de remarquer. Après, ils vont faire des petits commentaires. Il y a cette influence, non seulement des masses médias, mais également, il y a, si vous voulez, de plus en plus, une sorte d'acceptation non dite, en tout cas, de la communauté ou de la société par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Du moment où vous êtes en train de le cautionner, vous donnez l'opportunité également à votre jeune qui, en principe, doit prendre comme symbole son père ou sa maman ou bien l'un d'entre eux. Eh bien, ils vont et aussi développer la même chose. Mais aujourd'hui, nous avons dit, avec le développement de la technologie, mais ils ont le monde entre les mains.
En tout cas.
Lorsque votre enfant a un portable, il a pratiquement le monde, avec tout ce qu'on peut imaginer comme danger à main, et également bien fait. Mais malheureusement, lorsqu'on est encore adolescent, on ne pense pas au danger. On voit que tout est bien du moment où ça se passe ailleurs. Eh bien, c'est cette influence-là qui est en train d'expliquer, en tout cas, cette fougue que les jeunes ont à vouloir braver les interdits sociaux pour maintenant créer leur propre monde. Parce que c'est quoi? Ils ne sont plus dans notre réalité sociale que nous connaissons, mais ils sont dans une autre réalité sociale qui est virtuelle. Et cette réalité sociale virtuelle a un impact psychologique énorme sur les enfants parce que ça les amène à copier facilement ce qu'ils voient à travers les médias.
D'accord. Monsieur le juge, s'il n'y a pas d'âge légal pour entretenir une relation amoureuse, mais est-ce que vraiment entre mineurs et adultes, il est catégoriquement interdit d'avoir une relation entre mineurs et adultes?
En tout cas, à la lumière de la disposition que je viens de vous citer, tant que le mineur en question n'a pas les 18 heures voulues, donc une relation entre un adulte qui flirte ou qui fréquente un mineur, en tout cas qui a moins de 18 ans, cette relation-là, si elle a, comment on appelle ça ?
Elle est entamée ou bien ?
Oui, si elle est entamée, si elle conduit à un détournement, elle peut faire l'objet de poursuites pénales pour détournement des mineurs.
Monsieur Alou Aye, vous voulez ajouter quelque chose? Oui.
C'est pour un peu compléter le juge. Sinon, dans notre conception sociale, on peut admettre, la société admet qu'un majeur ou un adulte puisse fréquenter une mineure. La preuve, c'est que nous avons la question des mariages précoces. Mais ce qu'on ne doit pas occulter, la société, en admettant cet état de fait, c'est que la finalité pour la société d'une relation amoureuse, c'est vraiment le mariage, comme je l'avais dit. Mais tant que cette finalité n'y est pas, donc l'objectif est d'un détournement, comme ils l'ont dit, à des buts non prévus par notre société, eh bien, c'est condamnable.
Voilà.
Mais nous le savons tous. Aujourd'hui, l'un des problèmes récurrents que nous sommes en train de confronter au niveau social, c'est ce problème du mariage précoce. Parce que tout simplement, la société admet qu'une jeune fille, peut-être qui a 12 ans, qui a 15 ans, puisse être donnée en mariage à un adulte qui a 40, 50 ans. Parce que pour eux, la finalité, on éduque la femme pour qu'elle soit dans le foyer. C'est ça la conception primaire que nous avons dans le cadre de ce système d'éducation des enfants. Mais de nos jours, comme je l'avais dit, Les finalités ne sont plus les mêmes.
Voilà.
Par conséquent, il faut répresser, il faut châtier ce genre de comportement.
Et de par le constat, on voit que la plupart de ces jeunes, ils entretiennent des relations amoureuses à l'insu de leurs parents. Donc, selon vous, Monsieur Aye, en cas de problème, ces jeunes, à qui ils doivent se confier pour obtenir des solutions en cas de difficulté?
Ouais. En fait, malheureusement, en cas de difficulté, les jeunes sont voués à eux-mêmes.
Voilà.
Parce que tout simplement, comme nous l'avons dit, c'est une question tabou. Rarement vous allez venir dans des foyers, chez nous en tout cas, où vous allez trouver la question de sexualité abordée. Et par l'enfant et par les parents ensemble. C'est très difficile. Donc, c'est des questions qui se traitent en clandestinité, en dehors de leurs parents, entre les jeunes. Maintenant, le plus souvent, comme il y avait dans le premier témoignage là, de la fille, le plus souvent, lorsqu'ils ont des problèmes, c'est entre elles ou entre eux qu'ils essaient de les régler. Et je vous avoue, moi, je suis un peu dans le milieu, j'ai l'habitude de rencontrer des jeunes filles qui sont parties, des filles hein, qui ont à peine la vingtaine, qui sont parties jusqu'à avorter une de leurs camarades à l'insu de leurs parents. Une d'entre elles à l'insu de leurs
parents. Et ça, c'est une grave conséquence.
Mais évidemment. Et c'est ça qui peut engendrer par après des conséquences au niveau même de la reprocréation de la jeune fille là. Après, lorsque peut-être elle sera dans le cadre légal où elle va désirer avoir un enfant, mais peut-être elle a déjà endommager son fœtus lorsqu'elle est jeune.
Dès le bas âge.
Ou bien maintenant, il y a des jeunes filles qui prennent des pilules de contraceptives. Donc, véritablement, ces questions-là, pour revenir peut-être à votre question, ces questions-là sont traitées entre jeunes et c'est entre eux qu'ils essaient de trouver des solutions. À la limite des fois, je dis bien, pas les principaux concernés, un ami à eux peut partir se renseigner auprès d'un adulte pour qu'il puisse avoir la solution. Peut-être qu'il peut venir vers un adulte et lui demander vraiment, en cas de grossesse non désirée, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que j'ai une amie qui a contracté une grossesse non désirée et véritablement ses parents ne savent pas. Et le plus souvent, ils vont s'orienter vers des adultes pour lesquels ils pensent qu'ils vont leur donner la solution sans pour autant qu'on informe les parents. Donc, toujours encore dans la clandestinité, un adulte ou une adulte qui est déjà véritablement un peu peut-être au même diapason qu'eux, c'est elle qui va les orienter vers peut-être les cliniques, vers les centres de santé, vers des professionnels dans ce domaine-là, afin qu'on puisse avorter.
D'accord. Monsieur le juge, est-ce que, je ne sais pas, vous avez eu des cas de parents qui vous ont approché en cas d'une relation amoureuse entre leur enfant de moins de 18 ans, une relation qu'ils n'acceptent pas? Est-ce qu'ils ont eu à vous approcher pour vraiment mettre fin à ce type de relation? Est-ce que vous avez des cas?
Je voulais un peu revenir sur un aspect qui a été relevé par le débatteur d'en face. En fait, je crois qu'il y a une distinction à faire entre les relations amoureuses telles qu'elles se font en dehors du cadre matrimonial et les relations dès le mariage. C'est des choses différentes. Puisque le détournement des mineurs dont il est question au niveau de l'article 258 du Code pénal et ne traite pas de relations matrimonial, c'est des relations qui se font entre un adulte et un mineur en dehors d'une relation matrimoniale. Parce que le mariage précoce, c'est vrai, comme il l'a dit, c'est accepté dans notre société. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où le système juridique, en tout cas, comporte des catégories de règles. Il y a ce qu'on appelle les droits écrits, le code civil et les autres textes, et il y a les droits coutumiers. La question matrimoniale, la question du mariage au Niger, en tout cas, au regard de l'ordonnancement et de notre droit positif, la question des mariages est régie par ce qu'on appelle les droits coutumiers. Donc les droits coutumiers, ça peut être Hausa islamisé, Germain islamisé. Donc en réalité, sous couvert même de la coutume Hausa islamisé ou Germain islamisé ou Kanuri islamisé, je ne sais quoi, en réalité, c'est les droits musulmans qu'on applique. Or, dans les droits coutumiers, pour qu'une femme puisse contracter mariage, on ne tient pas compte de l'âge comme il l'a dit. On tient compte d'un certain nombre d'aspects physiologiques, donc tels que sa maturité, sa corpulence, ainsi de suite. Donc ça, cette question-là, elle n'est pas concernée par les relations amoureuses qui se font en dehors du lien matrimonial. Donc, je le répète encore une fois, et tel qu'il est, puisque ce texte-là, vous savez, l'article 258, là, il a une histoire. En fait, c'est un article dans le cadre de ce qu'on appelle le mimétisme juridique qui a été copié de la France. Donc, dans le code de ce qu'on appelle le code pénal napoléonien dans les années 1700-1800. En France, aujourd'hui, cette disposition-là n'existe plus. En France, on ne parle plus aujourd'hui de détournement des mineurs. Ils ont remplacé ça par une autre expression. Parce que bon, là, ils ont leurs mœurs. C'est tout à fait normal. Ils ont leurs mœurs qui ne sont pas les nôtres.
Les nôtres, voilà.
Donc, en France et dans la plupart des pays européens, les relations amoureuses et même sexuelles, hein, ce ne sont pas des questions taboues. Ces questions-là, c'est des questions qui sont acceptées par la société. C'est accepté, par exemple, qu'un adulte puisse avoir une relation amoureuse avec une mineure qui n'a pas 15 ans révolu. Et même entretenir des relations sexuelles avec elle, sans que ses parents ne puissent s'opposer. Mais la France, elle a ses réalités. Nous, on a les nôtres. Maintenant, la question, je pense, c'est la question.
Et si vous avez eu des cas de parents qui vous ont approché pour mettre fin à une relation entre leur enfant de moins de 18 ans?
La plupart des cas, c'est ce genre de situation-là, quand ça arrive au niveau des juridictions, elles sont traitées au niveau du parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, généralement, ou au niveau des enquêtes et des unités d'enquête, ils essaient de régler ces questions. Maintenant, quand ils n'arrivent pas à régler ça, le plus souvent, on saisit les juges des mineurs. Puisque là, peut-être c'est l'occasion pour moi de vous parler un peu des attributions du juge des mineurs. En tout cas, la juridiction des mineurs au Niger est régie par une loi de 2014-72 du 20 novembre 2014. Donc cette loi-là, elle donne deux catégories de compétences au juge des mineurs. Il est compétent pour instruire et juger des infractions qui sont commises par les mineurs. Mais l'autre attribution, en tout cas, qui à mon avis est aussi importante, c'est la question de protection. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant de moins de 18 ans, lorsque cet enfant-là est en danger, eh bien alors le juge des mineurs il est compétent pour prendre des mesures de protection en sa faveur. Et qu'est-ce qu'on entend par mineur en danger? L'enfant en danger, il est défini par cette même loi au niveau de l'article 1er. On entend par mineur un enfant en danger, un enfant de moins de 18 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation sont gravement compromises. Pour faire le lien avec le thème de notre émission, lorsque, par exemple, au regard des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, on se rend compte que le détournement des mineurs dont l'enfant a été victime. Lorsqu'on se rend compte, par exemple, que ce détournement-là est de nature à compromettre son éducation, là, le juge de mineur, il est de droit compétent lorsque les parents ou l'enfant lui-même, puisque les parents ont la possibilité de saisir le juge de mineur, tout comme l'enfant lui-même, il peut comparaître devant le juge de mineur pour lui dire « j'ai besoin d'une mesure de protection ». À ce temps-là, on va ouvrir un dossier. On fait une enquête sociale donc pour voir, pour essayer de chercher à comprendre les raisons qui l'ont amené dans cette situation. Et à ce temps-là, on va prendre une mesure de protection. Si on se rend compte, par exemple, si c'est des parents qui sont séparés, qui sont divorcés, et que l'enfant se trouve avec sa l'un des parents, et on se rend compte que, par exemple, il y a une sorte de délaissement, une sorte de négligence de la part de l'autre parent sur le plan éducatif, eh bien, à ce temps-là, le juge peut prendre une décision pour retirer l'enfant à l'autre parent et le confier à l'autre, ou bien le confier carrément à un tiers, de confiance, ou bien le placer même dans un centre d'accueil, comme les villages SOS et consorts. La moralité ou même l'éducation de l'enfant, eh bien, le juge des mineurs, en ce temps-là, en tout cas, la loi lui donne compétence pour prendre une mesure de protection en sa faveur.
Et quelle est cette mesure?
Donc, cette mesure de protection, ça peut être... En tout cas, la loi nous demande de faire autant que peut se faire, d'essayer de maintenir l'enfant dans le milieu familial. Parce que, bon, on a beau placer des gens dans des orphelins, dans des centres, donc ces institutions-là ne peuvent pas remplacer la cellule familiale. Donc, il faut essayer, la loi nous fait obligation, en tout cas, d'essayer, dans la mesure du possible, de maintenir l'enfant dans le milieu familial. Maintenant, le juge peut assortir ce maintien en milieu familial-là et d'un certain nombre d'obligations. Maintenant, en ce qui concerne la grossesse en tant que telle, donc là, lorsque la mineure va accoucher, eh bien, en ce temps-là, elle a la possibilité donc, d'intenter ce qu'on appelle une action à recherche de paternité
devant
le tribunal. Donc, une action pour essayer de lui trouver un parent. C'est-à-dire, si elle pense que... Elle connaît l'auteur de la grossesse. La plupart des cas, les auteurs de grossesse ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas. Maintenant, si le parent, si l'auteur de la grossesse reconnaît, tant mieux. Donc là, l'action à reconnaissance de paternité naturelle ne va pas poser de difficultés. Mais quand l'auteur de la grossesse ne reconnaît pas, à ce temps-là, il faut aller devant les tribunaux, saisir le tribunal civil pour que le tribunal déclare si oui ou non. Le monsieur, en tout cas, qui est la mineure désigne, si c'est lui qui est l'auteur de la grossesse ou pas. Et donc, bon, au Niger, dans les autres pays, généralement, on recourt à ce qu'on appelle le test ADN. Nous, au Niger, en tout cas, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Mais il y a un certain nombre de cliniques quand même qui le font. Ils font le prélèvement. Ils envoient les échantillons au niveau de certaines cliniques qui sont basées à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire. Et pour avoir les résultats. Donc, sur la base des résultats-là, donc les tribunaux, la juridiction va se prononcer pour dire si, en tout cas, le monsieur, la personne, en tout cas, qui a trait devant le tribunal, si oui ou non, elle est, en tout cas, le père de l'enfant ou pas.
D'accord.
Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire
Okay.
Et par rapport à
Monsieur Alou Aye, selon vous, donc, au vu de toute cette situation, comment on doit vraiment faire, un garçon doit faire la cour à une jeune fille sans pour autant compromettre son avenir, sans que cela ne soit un obstacle à son avenir?
Bon, comment on doit faire la cour pour, pour ne pas compromettre l'avenir de la jeune fille? Oui. Moi, je pense que c'est une question assez complexe. Elle est complexe dans la mesure où il faudrait forcément un changement de mentalité. Mmh. Du moment où cette question, d'une manière globale, elle est un tabou social. Mmh. Les parents auront du mal à accepter que des jeunes puissent entretenir des relations sans finalité. Parce que peut-être ils sont déjà précoces, ils n'ont pas la finalité de se marier. De les laisser juste expérimenter, c'est quasiment difficile. C'est socialement condamnable, c'est culturellement inacceptable. Par conséquent, j'aurais du mal à dire quelle sera la meilleure de procédure pour des jeunes qui sont encore précoces, qui sont immatures et qui n'ont pas la finalité de se marier. Donc, c'est ce qui fait qu'elle est en train de se développer autrement, en dehors de la cellule familiale. Maintenant, les jeunes, dans la clandestinité la plus totale et la plus absolue, sont en train de développer ces relations amoureuses. Maintenant, moi, je pense que la meilleure des choses, la meilleure des procédures qu'il faudrait faire, c'est vraiment mettre l'accent sur l'éducation de base. L'éducation de base est fondamentale parce que ça permet à l'enfant d'avoir les bases solides, lui permettant de surmonter parfois les obstacles, mais également l'influence de ses pères. L'influence de son milieu, tant que l'enfant n'a pas reçu cette éducation de base, qui est fondamentale, c'est comme dans le système d'éducation. Lorsque un enfant, on lui dit, rate le primaire, difficilement il peut se rattraper au collège, au lycée. Donc, c'est de la même manière que les parents doivent savoir que nous avons l'obligation, le devoir absolu, d'éduquer au maximum, avec les valeurs les plus nobles, au niveau de la base, nos enfants avant qu'ils n'atteignent un âge d'adolescence.
D'accord.
Lorsque vous construisez quelqu'un de fort, de solide, et vous allez le constater, il faut jeter un coup d'œil à travers nos relations, peut-être les anciennes ou les anciennes présentes, vous allez voir toujours dans un groupe, il y a ceux qui ont tendance à mener les gens. C'est parce qu'ils ont une personnalité. Et dans la formation ou dans l'éducation qu'ils ont reçue, on les a donné cette personnalité. Rarement, ils vont se laisser influencer. Vous allez voir, j'ai l'habitude de le dire, une maman sera fière et elle va s'assurer qu'elle a bien reçu l'éducation de son enfant lorsque sa fille sort dehors, même si on l'envoie pour payer du ketchena, et qu'elle rencontre un garçon qui lui parle, que ce soit un jeune ou un adulte, elle revient, elle se confie à sa maman.
À sa maman, oui.
Dis-toi qui t'as reçu.
En tout cas, c'est une grande fierté.
Tant que ta fille va rencontrer ces situations comme ça, des avances comme ça, elle va les cacher à toi. Dis-toi quelque part, dans la méthode d'approche ou la stratégie d'éducation,
il y a quelque chose qui n'a pas marché. Voilà. Comme nous sommes presque à la fin de cette émission, monsieur le juge, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire davantage vraiment pour limiter la dégradation de la situation d'aujourd'hui de ces jeunes-là? Que doit-on faire davantage?
Oui, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, en fait, notre société, ou dimanche, et la cellule familiale, dans le contexte actuel, elle est confrontée à des défis qui sont multiples et multiformes. On a parlé dans nos propos préliminaires des facteurs comme les nouvelles technologies de l'information, la communication, les séries télé, les nouvelles. Aujourd'hui, les menaces, elles sont présentes dans nos foyers. Et ce qui m'amène un peu peut-être là à interpeller, en tout cas les responsables des médias, notamment les chaînes de télévision, donc à revenir aux principes fondamentaux sur leur programme.
Et merci à vous. Donc, je termine avec vous, M. Alou Aye. Pour finir, quel conseil aux jeunes d'aujourd'hui pour vraiment un meilleur avenir?
Merci. En fait, véritablement, pour un meilleur avenir, les jeunes doivent comprendre que tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément bien pour lui. C'est vrai, ils sont le plus souvent à l'âge de l'adolescence où on pense que vouloir copier l'autre, faire semblant pour être dans la mode, c'est ça qu'il nous faut. Mais fondamentalement, le chemin sur lequel les parents les ont mis est la meilleure des choses pour eux. La finalité de chaque individu, adolescent soit-il ou enfant, c'est de devenir demain un adulte responsable. Mais cet avenir-là, on le construit lorsqu'on est encore jeune, lorsqu'on est encore adolescent ou lorsqu'on est encore enfant. Et lorsqu'on rate la base, eh bien, on sera adulte, irresponsable, pratiquement sans aucun rôle social.
Merci à vous. Merci. Et donc, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou, comme vous l'avez entendu, de par les interventions de nos deux invités et les témoignages des jeunes, vous pouvez comprendre que de nos jours, bon nombre de jeunes sont impliqués pleinement dans des relations amoureuses à l'insu même de leurs parents, et aussi ces jeunes sans pour autant connaître le vrai sens de l'amour. Donc, selon nos deux invités, l'accent doit être vraiment mis sur l'éducation de base pour éviter toute dégradation de la situation. Et c'est ici que prend fin l'émission de ce soir. Nous étions dans ce studio avec M. Nani Soli. Il est juge de mineurs du premier cabinet de mineurs au tribunal de grande instance de Niamey. Merci Monsieur le juge d'être venu. Monsieur Alou Aye, il est sociologue. Merci également à vous d'être venu. À la présentation, c'était Nafisa Adam Sirfo. À la technique, Issa Lawali. À très bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalangou. Au revoir.